Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer un très bon sabbat. L'argent est un sujet très personnel. Et si on regarde bien par rapport à l'histoire, l'humanité n'a jamais, dans son ensemble, n'a jamais eu autant de richesses. Le niveau de vie de beaucoup de régions dans le monde n'a jamais été aussi élevé. Et donc, aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, nous allons parler argent. Plus précisément, nous allons parler de la dîme. La dîme étant un sujet biblique, je tâcherai de présenter ça d'une façon un peu différente. Et si vous voulez un titre pour ce sermon, c'est « Pourquoi Dieu a-t-il institué la dîme ?» Pourquoi Dieu a-t-il institué la dîme? Et nous allons commencer, si vous voulez bien, avec la situation que nous trouvons dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14, pour revenir un petit peu en arrière, ou pour situer le contexte plutôt, nous avons quatre, comme la Bible dit, quatre rois contre cinq rois. Les rois de Sodome et Gomorre sont mentionnés, ils ont subi une défaite, et par la suite, puisque Lot habitait déjà à Sodome, Lot était fait prisonnier. Ils enlevèrent donc toutes les richesses de Sodome et de Lot. Mais pour citer la Bible, Abraham, comme il était à l'époque, son frère, il avait constaté que son frère avait été fait prisonnier. Et donc, il réunit plus de 300 de ses plus braves serviteurs. Il attaque ceux qui ont enlevé son frère, son neveu, et Dieu lui accorde la victoire. Donc, après cette victoire, nous avons une situation où vous avez le roi de Sodome, Abraham, et un personnage, entre guillemets, mystérieux, parce qu'on ne sait pas vraiment de qui il s'agit au début, qui s'appelait Melchizedek. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 14 et le verset 18. Genèse chapitre 14 et le verset 18. Nous lisons ceci. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter de pain et de vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Il est donc roi de Salem. Il est roi donc de paix. Il est roi de la justice. Et nous voyons ici dans le verset 19 que Melchizedek bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Ailleurs, c'est mentionné ou c'est traduit par le fait « Abraham par le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre. » Effectivement, Dieu possède tout. Tout est à Dieu. Si vous regardez Deutéronome, on va juste regarder, Deutéronome chapitre 10, le verset 14. Il y a un verset qui complète ce que nous venons de lire, Deutéronome chapitre 10, le verset 14. Je saute ici au milieu d'un contexte, mais seulement pour illustrer ce point, pour renforcer ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. La terre est tout ce qu'elle renferme. Tout est à Dieu. Dieu nous a créés, Dieu a créé tout ce que nous voyons. Bon, les hommes inventent, bien sûr, mais à la base, ce sont des produits que Dieu a donnés. Revenons à Genèse chapitre 14 et le verset 20. Et vous avez ici, donc, mentionné dans la Bible, Genèse chapitre 14, et aussi ce que nous venons de voir, Deutéronome chapitre 10, un certain état d'esprit. L'état d'esprit que tout est à Dieu, que tout appartient à Dieu. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Parce que Dieu peut tout faire, Dieu est tout puissant, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait suite à cet état de choses? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et c'est bien marqué, et Abraham, ça suit, ça va de pair, ça va ensemble. Et Abraham lui donna la dîme de tout. En comprenant bien sûr, que la dîme veut dire un dixième. Il y a donc un lien entre ces deux choses. Un lien entre ces deux choses. Il donne la dîme de tout. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, parce qu'il a récupéré les femmes, il a récupéré les personnes. Donne-moi, et c'est ce qui est le plus important, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham, qui est très intègre, très droit, répondit au roi de Sodome, et on comprend le raisonnement ici. Il répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel. Son appui, sa force, c'était Dieu. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ce qui est intéressant, si vous regardez dans l'hébreu, vous verrez qu'il répétait exactement la même chose de ce que Melchizedek a dit. Il employait les mêmes mots. C'est-à-dire que Dieu a dit ceci, enfin Melchizedek a dit ceci, et voilà qu'Abraham, tout ça, c'était, il avait ça dans son cœur, il comprenait bien, lui qui avait une relation privilégiée avec Dieu, il répète exactement la même chose parce qu'il savait que Dieu avait la suprématie sur tout, qu'il était souverain au-dessus de tout. Dans Genèse chapitre 18, verset 19, pour revenir en arrière un petit peu, où Dieu dit, il bénit, ou Melchizedek dit, il bénit Abraham, et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et c'est intéressant de regarder l'exemple d'Abraham, parce que nous référons souvent à Abraham, comme le père des fidèles. Et c'est marqué, on va juste s'y rapporter, dans Romains chapitre 4, verset 11, quelque chose qui est intéressant. On sait que donc Abraham était le père des fidèles, Abraham qui a fait preuve d'une foi énorme. Et ici, dans Romains chapitre 4, verset 11, nous lisons ceci. Là aussi, je saute au milieu d'un contexte, mais Romains chapitre 4, verset 11. « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il fut incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. » Verset 12. « Et le père des circoncis, donc c'est ça, le circoncis et ceux qui ne sont pas circoncis, ça englobe tout le monde, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père, Abraham, quand il était incirconcis. » Donc nous pouvons, à travers cet exemple, avec celui qui était à l'époque Abraham, il est facile de reconnaître qu'il y a un lien entre la dîme et la suprématie de Dieu. Et donc, nous pouvons comprendre ce lien. Nous avons la possibilité de comprendre ce lien. Et en payant la dîme, nous reconnaissons bien sûr que tout appartient à Dieu. Que tu viens de Dieu, c'est une forme de culte. Il ne faut pas oublier ça, c'est important, c'est une forme de culte. Allons un peu plus loin, parce que nous venons de voir l'exemple d'Abraham. Allons un peu plus loin pour voir l'enseignement ou la connaissance que Jacob avait à une date ultérieure. Et nous retrouvons Jacob, qui avait donc une connaissance, qui avait une connaissance de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'Isaac était né quand Abraham avait 100 ans. Jacob est né quand Isaac avait 60 ans. Et Abraham est mort à 175 ans. Ce n'est pas difficile de faire un petit calcul pour constater que Jacob avait 15 ans à peu près, donc quand Abraham est mort. Il avait la connaissance, bien sûr, de son grand-père et bien sûr de la voix de Dieu. Et on constate dans Genèse chapitre 28, verset 20, cette connaissance qu'il avait. Dans Genèse chapitre 28, et le verset 20. Et il fait un vœu. Vous savez que Jacob était très calculateur. Avant sa conversion. Et ici, à ce moment-là, dans son histoire, dans sa vie, il n'était pas converti. Il fait un marché avec Dieu. Genèse chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. » Eh bien, mais si Dieu est avec moi, c'est un marché. « S'il me donne du pain à manger. » Mais ce qu'on constate, c'est qu'il dit, « Si c'est Dieu qui me donne toutes ces choses. » Il reconnaissait que ça venait de Dieu. « S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne dans le pays à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Plus tard, il s'est converti, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai, si, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. De tout ce que tu me donneras. Il avait donc, comme j'ai dit, cette notion que c'est Dieu qui donne, cette conviction même que c'est Dieu qui donnait et que ça venait de lui. Si nous regardons la vie de Jacob avec Laban, il était avec son beau-père, qui n'était pas facile du tout, et il a travaillé très dur pour son beau-père. Mais c'est Dieu qui donne la force pour travailler. Et dans Genèse chapitre, si nous retournons la page, deux pages, Genèse chapitre 31, verset 40, il parle de cette époque dans sa vie, de cette période, quand il a travaillé très dur. Genèse 31, verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Donc, Genèse chapitre 31, verset 40. Il a travaillé dur. Et il aurait pu dire, oui, mais c'est parce que j'ai travaillé dur que j'ai tout ça. Oui, il faut que nous puissions bien sûr participer, mais tout vient de Dieu quand même. Genèse donc 31, verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Il manquait de sommeil, il travaillait dur le jour, la nuit, verset 41, il travaillait longtemps. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison et j'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Pas la protection sociale comme ça existe maintenant. Verset 42. Et si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, oui, il était maintenant beaucoup plus proche de Dieu. Si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. La fin de verset 42, c'est intéressant dans ce contexte. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, parce que Dieu voit tout. Et hier, il a prononcé son jugement. Il a attribué tout à Dieu. Il savait, bon, il a beaucoup travaillé, mais c'était Dieu qui le bénissait aussi. Ça va dans le même sens de ce que nous venons de lire à propos d'Abraham. Il y a un autre passage que nous pouvons ajouter dans ce contexte, 1 Chroniques chapitre 29 et le verset 11. Ça, c'est le point de départ pour un homme de Dieu, pour un homme converti. Et c'est ce que nous trouvons chez David. Ce n'était pas difficile pour David de reconnaître la main de Dieu. 1 Chroniques, chapitre 29, et le verset 11. Que c'est Dieu qui nous permet de jouir de tant de choses. Que c'est Dieu qui nous donne la force, qui nous donne beaucoup de choses. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 11. David qui parle ici à Dieu, à toi éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout est à Dieu. La preuve, c'est que quand nous ne sommes plus là, ce n'est plus à nous. C'est peut-être à nos enfants, mais temporairement, mais c'est plus à nous. Verset 11. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessous de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 14. Il y a une notion aussi, plus qu'une notion, il y a le concept d'humilité aussi dans ce point de départ. Le concept de l'humilité. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous avons le privilège d'offrir à Dieu ce qui nous a donné à l'origine. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses. Il répète, parce que ça faisait partie de son être, de son façon de penser. Il savait que c'était vrai. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, parce qu'il donnait à Dieu à ce moment-là, à toi et à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Il avait la joie parce que le peuple donnait, verset 17, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires de la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Dieu a la joie, bien sûr, quand les gens donnent parce que parce que Dieu n'a besoin de rien, bien sûr, mais Dieu sait que c'est bon quand on donne. C'est bon pour ceux qui donnent. Verset 18. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Nous voyons donc de nouveau ici une façon de penser correcte. Ce que j'appellerais une façon de penser correcte par les hommes qui suivent Dieu, par les hommes dont Dieu est le centre de leur vie. C'est la perspective correcte, c'est une perspective juste, c'est une perspective de Dieu et c'est une perspective biblique. C'est une perspective correcte, une perspective juste, biblique et de Dieu. Et nous avons donc l'occasion de redonner ce qui nous a été donné. Comme j'ai dit, Dieu était au centre de leur existence. Et il n'avait pas de peine, ces trois exemples que nous venons de voir, une fois que Jacob était converti, il n'avait pas de peine à reconnaître sa puissance, sa suprématie et le fait que tout lui appartenait. C'était beaucoup plus simple à l'époque. Avec les normes qui existaient, avec les lois qui existaient et leur façon de vivre. Tandis que de nos jours, ce n'est pas Dieu, je parle en termes globaux si vous voulez, de nos jours, ce n'est pas Dieu qui est au centre de la vie des êtres humains, c'est le soi qui est au centre de son existence. C'est très très répandu. L'égoïsme, c'est quelque chose qui prédomine de nos jours. Vous n'avez qu'à vous rapporter à 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers jours des temps difficiles, parce que les hommes sont égoïstes. Et nous constatons ça de nos jours. Nous constatons ça autour de nous. Comme je dis, je généralise bien sûr. Allons un peu plus loin. Le fait que tu viens de Dieu, d'accord, mais nous pouvons aller encore plus loin. Deutéronome chapitre 8. Le matériel, bien sûr, vient de Dieu. Dieu a tout créé par l'intermédiaire de la parole. Et nous voyons de Deutéronome chapitre 8, le Satan mis en garde quand Israël allait entrer dans la terre promise. Satan mis en garde quand Israël allait entrer dans la terre promise. On va commencer à lire, si vous voulez bien, dans le verset 7. Car l'Éternel ton Dieu, c'est donc des consignes qui sont données avant qu'ils entrent en terre promise, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Il y a cette prospérité future qui était soulignée. Verset 8. Paix de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Paix d'olivier et de miel. Paix où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Paix dont les pierres sont du fer des montagnes, duquel tu tailleras les reins. Il décrit donc ce bon pays. Verset 10. Dans ce contexte-là, mise en garde, si vous voulez, à Israël, avant qu'Israël entre dans la terre promise, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Il fallait garder Dieu en tant que le centre de leur vie. Verset 14. Je ne vais pas vous lire tout le contexte, mais verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu était derrière la nation d'Israël. Dieu les a protégés, Dieu les a bénis. Que ton cœur ne s'enfle. Un mise en garde de nouveau de ne pas oublier Dieu et que notre cœur ne s'enfle pas, ou le cœur des enfants d'Israël ne s'enfle pas. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, et c'est ce que nous pouvons dire de nos jours, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont accueilli ces richesses. La plupart des gens vont penser peut-être ça. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Nous, Dieu nous donne la force physique pour faire ce que nous faisons, bien sûr, et nous participons, bien entendu. Mais Dieu nous donne tout ce que nous avons. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il faut comprendre, il faudrait comprendre, donc, que nos capacités, nos aptitudes, nos esprits, notre créativité, notre santé, et la force exigée pour travailler convenablement et pour gagner sa vie, tout ça, ça vient de Dieu. L'air que nous respirons vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, première chose que nous pouvons voir, c'est ce lien entre la dîme et la suprématie de Dieu. La suprématie de Dieu. Autre chose que nous pouvons constater à propos de pourquoi Dieu a institué la dîme, c'est que ça nous donne, si on veut bien, ça nous donne l'occasion de développer la foi. Ça nous donne l'occasion de développer la foi, et la foi c'est important, c'est très important. Malachie chapitre 3, nous sommes familiers avec Malachie chapitre 3, c'est très clair. Je vais lire Malachie chapitre 3, le verset 10. Dieu parle ici dans Malachie 3 de la dîme. Malachie chapitre 3 et le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi, c'est Dieu qui parle, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nous avons la possibilité de mettre Dieu à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu voit tout, Dieu est conscient de tout. C'est marqué dans Proverbes chapitre 17, verset 3, « Celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Ça, c'est Proverbes 17, verset 3. « Celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Et nous avons le privilège de mettre Dieu à l'épreuve d'une façon positive. Si vous voulez, de faire de Dieu notre partenaire. C'est important, ça. Évidemment, si on n'a pas beaucoup de moyens, si on est dans une situation difficile, ça peut être une épreuve de foi. La foi, d'accord, mais ça peut être une épreuve de foi, si nous n'avons pas beaucoup. Mais Dieu nous lance un défi de bénir ceux qui donnent la dîme, ceux qui donnent, payent fidèlement la dîme. C'est une promesse de la part de Dieu. Et la foi en Dieu, parce que surtout quand nous ne voyons pas comment nous pouvons joindre les deux bouts. Dieu ne dit pas que nous allons devenir riches. Dieu ne dit pas ça. Mais Dieu dit qu'il va bénir. Abraham n'avait pas son cœur sur les richesses, mais il savait que c'était Dieu qui le bénissait. Et Abraham a gardé ses priorités. Tout en étant riche, il a gardé ses priorités, il a gardé son cœur sur Dieu, axé sur Dieu. Du reste, pour certaines personnes, ce ne serait même pas bon d'être riche. Mais Dieu dit qu'il va prendre soin de nous. Dieu dit qu'il va prendre soin de nous. C'est très encourageant, ça c'est le côté physique. Et c'est intéressant parce que Dieu parle là d'un côté physique et on investit du côté spirituel. Et il y a des bénédictions aussi du côté physique. C'est pas pour prendre, c'est pas pour s'enrichir. C'est pour faire ce que Dieu dit. Et nous avons un exemple de ceci. Je vous ai parlé, je crois, la dernière fois d'Ézéchias. Je vous ai parlé de la Pâque, des pains sans levain. Pâque et pains sans levain, très réussi. Mais après, ça continue à progresser. Et nous sommes donc maintenant dans 2 Chroniques chapitre 31. 2 Chroniques chapitre 31. Verset 2. 2 Chroniques chapitre 31, verset 2. Ceci a lieu après la Pâque, après la fête des pains sans levain, qui était une très bonne réussite, une belle réussite. Ézéchias, verset 2, rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Donc ils sont engagés vis-à-vis de Dieu pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donnait une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion aux sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance. Ça, c'est 2 Chroniques, chapitre 31, et le verset 5. 2 Chroniques, je suis maintenant 2 Chroniques, chapitre 31 et le verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé. Ils avaient à cœur de donner. C'était une période où il y avait le côté spirituel qui était renouvelé. Ils avaient le cœur orienté vers Dieu. Alors, donc, verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mûr et de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Ils apportaient la dîme de tout. Verset 6. Et de même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel de Dieu. Ils avaient le cœur tourné vers Dieu. Ils donnaient la dîme. La récolte était très bonne. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu que Dieu les a bénis. Donc, au milieu de verset 6, c'est la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel de Dieu. Et donc, dans les choses qui étaient consacrées à l'Éternel de Dieu, dont on fit plusieurs tas. Et on commence le tas troisième mois. Bon, il y a tous ces versets. Ensuite, le verset 10. le verset 10. Alors le souverain sacrificateur, Azaria, de la maison de Tsadok, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé. Pourquoi ? Car l'Éternel a béni son peuple. » Dieu a béni son peuple. Vous avez une illustration, bon, Malachi vient après, point de vue chronologique, mais c'est une illustration de ce que nous venons de lire dans Malachi. « Car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Il y a un commentaire qui dit ceci, j'aime beaucoup comme c'était marqué, en parlant de Dieu, « qui a couronné l'année avec sa bonté. » Qui a couronné l'année avec sa bonté. Dieu a béni. À leur niveau, les écluses des cieux se sont ouvertes. Je reviens, je commence à regarder autre passage, mais je reviens à ce 2 Chroniques, chapitre 31, et le verset 14. 2 Chroniques, 31, et le verset 14. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu. Faits à Dieu. Ça, c'est important, on reviendra là-dessus aussi par la suite. Faits à Dieu. Pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation. Ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Vois la main de Dieu. Si nous revenons à Malachi, chapitre 3. Malachi, chapitre 3, et le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, suite de bénédiction. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Je parle ici d'une protection. Et bien sûr, le domaine agricole était primordial à l'époque, très important, et Dieu dit donc qu'il va aussi protéger. C'est quelque chose donc qui va se voir. La leçon de foi est une leçon qui est importante. C'est bien marqué dans Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça rejoint Malachi chapitre 3. Nous avons donc, à travers la dîme, le fait de payer la dîme, la possibilité de fortifier notre foi. Surtout, j'allais dire, ajouter, surtout si nous nous trouvons dans une situation difficile où il faut faire vraiment preuve de foi. La possibilité de fortifier notre foi, d'approfondir notre foi, et par la même occasion de fortifier notre relation avec Dieu. De fortifier notre relation personnelle avec Dieu. L'inquiétude, si on s'inquiète de comment on va s'en sortir, point de vue financier, l'inquiétude, c'est un ennemi de la foi. C'est un ennemi de la foi. Et nous, si on fait confiance en Dieu, si on apprend la leçon, cette leçon de la foi, nous pouvons préparer notre avenir aussi. La foi, c'est un des trois piliers, c'est important, parce que c'est un des trois piliers mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 13. Un des trois piliers mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 13, de vivre par la foi, de développer une plus grande foi, ça va automatiquement enlever nos iniquités. Ici, on parle dans le domaine financier. De percevoir, grâce à l'intervention de Dieu, qu'on s'en sort et qu'on peut vivre avec ce qui reste. Ça demande la discipline. C'est là qu'on voit aussi l'utilité d'établir un budget, mais d'avoir la foi que Dieu va nous aider. Parce qu'à la base, nous sommes convaincus que tout vient de Dieu et que Dieu est tout-puissant. Et qu'il a aussi, bien sûr, la puissance pour intervenir dans notre vie personnelle et nous bénir, intervenir, par exemple, à travers les opportunités auxquelles nous ne pensions pas, auxquelles nous ne s'attend pas, des bénédictions auxquelles il n'était pas prévu, si je puis dire. Et Dieu peut nous les donner à tout moment. Deuxième point, donc, l'occasion de développer la foi. Troisième point dans ce sermon, ce que nous pouvons apprendre, c'est que la dîme est sainte. La dîme est sainte. On peut donner la définition suivante du mot saint. Quelque chose qui nous aide à mieux comprendre et avec lequel nous pouvons travailler. On peut repartir ça en trois parties. Premièrement, saint, ça veut dire que c'est à part. Deuxièmement, c'est à part, mais c'est par Dieu. C'est Dieu qui l'a mis à part. Il n'y a personne d'autre, si c'est saint. Il n'y a aucun homme qui peut le mettre à part. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et troisièmement, dans un dessein spécial. L'opposé de saint, c'est profané. Quelque chose qui est profane, quelque chose qui n'est pas saint. On a la même chose, même mot de nos jours. Quelque chose qui est profane. Vous pouvez regarder à la maison, si vous voulez, les deux écritures suivantes. Lévitique 21, verset 12, et Lévitique, chapitre 8, et le verset 11. Pour illustrer un petit peu, illustrer davantage le mot « saint », on peut prendre le sabbat. Le sabbat est un jour à part, qui a été mis à part par Dieu. Donc, premièrement, à part. Deuxièmement, mis à part par Dieu, et troisièmement, dans un dessein spécial. On a chanté à ce sujet-là, je crois que c'est le premier cantique qu'on a choisi, on a parlé de... Le troisième cantique illustre un petit peu cette histoire de dessein spécial. Parce que c'est un culte qu'on rend à Dieu, c'est un rapport physique, mais c'est aussi un culte qu'on rend à Dieu. Et nous voyons dans Lévitique, je ne m'y rapporte pas, nous voyons dans Lévitique chapitre 11, verset 45, Dieu dit, « Soyez saints. » Dieu veut que son peuple soit saint. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Il fallait qu'Israël garde les choses saintes. Qu'il les garde, ce qui était saint, que Dieu les avait mis à part. Il fallait qu'Israël garde ces choses saintes. Et c'est la même chose avec Israël spirituel, les choses que Dieu a prononcées à part, qui sont saintes. C'est à Israël spirituel de garder ces choses saintes. Mais Lévitique chapitre 27, verset 30. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et le Darby dit ceci à propos du verset 30. Et toute dîme de la terre, de Darby, hein, et toute dîme de la terre, de la semence de la terre, du fruit des arbres, est à l'Éternel. Appartient à Dieu. C'est une chose sainte. Et j'aime beaucoup cette traduction parce que c'est marqué, c'est une chose sainte, et ensuite, entre parenthèses, comme dans le second, consacrée. Mais c'est une chose sainte, entre parenthèses consacrée, de l'Éternel. Et on comprend davantage, je ne vais pas le lire maintenant, on a fait référence à ça dans le temps, mais on comprend le reproche dans ce contexte que Dieu fait dans Malachie, chapitre 3, avant qu'il parle de bénédiction. Je ne vais pas le lire. Les quelques versets qui précèdent, les versets que nous avons lus à partir de Malachie, chapitre 3, et le verset 10. Et bien sûr, la société, à l'époque, le revenu, en grande partie, venait de l'agriculture. Verset 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Le verset 30, on vient de voir les fruits des arbres appartient à l'Éternel. Et puis là, vous avez le bétail qui est mentionné. Donc, ça englobe les deux aspects de l'agriculture. Là, de nouveau, Darby dit ceci, la version Darby dit ceci. Quant à toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la verge, la dîme sera sainte, entre parenthèses, consacrée. Voilà, on a parlé de la définition tout à l'heure du mot saint. Et donc, la dîme est sainte parce que c'est à part. C'était mis à part par Dieu. Et c'était mis à part dans un dessein spécial. Nombre chapitre 18, verset 21. Et nous voyons ce dessin spécial évoqué jusqu'à un certain point dans Nombre chapitre 18 et le verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi. Nombre chapitre 18, verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Pourquoi? Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Et c'est formidable parce que la dîme est à Dieu, est à l'Éternel, la dîme est sainte, et voilà que Dieu donne ce qu'on lui donne, il le donne à l'époque aux enfants, enfin pas aux enfants d'Israël, mais c'était au Lévi, au fils de Lévi. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël, dans un dessein spécial comme nous venons de lire. Ici. Donc Dieu donne aux Lévites, et les Lévites étaient déjà à part, Néhémie chapitre 13, verset 4. Néhémie chapitre 13 et le verset 4. Une époque de nouveau où le peuple s'est tourné vers Dieu sous la direction de Néhémie. Dans Néhémie, chapitre 13, et le verset 4. Avant cela, Néhémie 13, verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, qui n'a pas fait les choses comme il fallait, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mu et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites. Donc, détournement, oui, détournement de fond, si on peut dire, pour un plein expression moderne, détournement de l'argent qui était à Dieu, la dîme du blé, du mu et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chants et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Verset 10. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Évidemment, s'ils n'avaient pas les moyens que Dieu leur avait donnés, ça posait un problème. Verset chapitre 12, verset 44. Chapitre 12, verset 44. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servait de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Chargés d'accueillir le territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et les purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Ils commencent à mettre les choses dans l'ordre, correctement. Faire les choses que Dieu a voulu. Verset 46. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de l'Éternel. Tout est orienté vers Dieu. Verset 47. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour en donnant aux Lévites les choses consacrées. Nous voilà de nouveau avec notre mot consacré. Donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées parce que les Lévites, bon, ils recevaient la dîme, mais les Lévites devaient aussi à leur tour donner, payer la dîme et ils la payaient aux sacrificateurs. Le rabbinat parle de consacrer aux Lévites, entre parenthèses, le dû, et les Lévites consacraient le dû, entre parenthèses, les fils d'Aaron. Vous pouvez regarder aussi, je m'y rapporte pas faute de temps, mais Exode chapitre 40 et le verset 9. Exode chapitre 40 et le verset 9. Les Lévites étaient saints, le tabernacle était saint. Donc ça c'est le troisième point, la dîme était sainte. On va poursuivre, pour arriver au quatrième point, on va poursuivre notre investigation de Melchizedek. Et pour ça, il faut regarder Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. C'est ce qui nous permet de conclure avec un quatrième point. Hébreux chapitre 7. Verset 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénissent, qu'on a vu tout à l'heure, et à qui Abraham donna la dîme. La dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Dans Ésaïe 11, nous lisons à propos du Christ, le Christ qui va revenir, que la justice sera la ceinture de ses flancs. Alors, le Christ est bel et bien roi de justice. Justice et la paix. Mais pour l'instant, on est avec Melchizedek. Je vais un peu trop vite là. Verset 3. En parlant de ce Melchizedek, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. On parle ici de Melchizedek. Qui est sans commencement de jour, qui est sans père, sans mère, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est par les anges. Tous les anges ont été créés. Nous tous, nous avons été créés. Il n'y a que Dieu qui est sans commencement de jour et qui n'a ni fin de vie. Il n'y a que Dieu. Que ce soit Dieu le Père, ou que ce soit celui qui est devenu le Christ. Et puis c'est marqué à la fin du verset 3, qui est du reste, c'est marqué, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ça doit déjà nous donner la réponse. Qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. On parle donc de l'éternité, à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Abraham était grand, mais il y avait un être qui était plus grand qu'Abraham, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi. Donc, d'après la loi, c'est ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. D'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Donc, en loi de Dieu, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Mais c'est Dieu qui avait déterminé ainsi. Verset 6. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, Melchizedek, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par la supérieure. Supérieur, bien sûr, c'était Melchizedek. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, les Lévites. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Les Lévites meurent. Celui qui est, en comparaison de ça, Melchizedek, c'est un être qui était sans commencement ni fin de vie, qui vit. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme, dans le verset 8, sont des hommes mortels, ils meurent, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, c'est figurativement, il a payé la dîme déjà à Melchizedek. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, pas encore né, lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Ceci nous permet de voir le contexte et que la dîme était quelque chose qui existait bien avant le mont Sinaï, bien avant les lois données à Moïse, et que le sacerdoce de Melchizedek existait, était ultérieur. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, ce n'était pas le cas, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Melchizedek et ensuite un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ça nous permet de comprendre davantage. Il y a une continuité entre le Melchizedek à l'époque d'Abraham et le Melchizedek qui existe maintenant, selon l'ordre de Melchizedek plus précisément. Hébreux chapitre 7, toujours verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Il faut bien comprendre, pour bien comprendre le verset 12, il faut bien comprendre le contexte. Le contexte, c'est le sacrificateur Melchizedek et la dîme. Et le verset 12 ne dit pas que la dîme est abolie. Pas du tout. Il y a un changement de sacerdoce. Si vous regardez Hébreux chapitre 4, nous savons, juste regarder ça, parce qu'on sait que le Christ est notre souverain sacrificateur maintenant. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, changement de sacerdoce. Actuellement, le Christ est notre souverain sacrificateur. Il est plus haut, bien sûr, que les Lévites. Et le sacerdoce de Melchizedek est restauré dans ce sens-là. Il y a toujours un sacerdoce. Il y avait Melchizedek, il y avait les Lévites, et après, après la chute de Jérusalem, il n'y avait plus cette même possibilité pour les Lévites d'exercer un sacerdoce. Et ici, donc, il est question d'un transfert de sacerdoce. Ce qui est très intéressant, c'est que quand nous regardons, ou si vous regardez le grec, vous savez, par exemple, Strong's, c'est une des références, bon, certaines personnes vont comprendre le mot Strong's, mais c'est une référence qui donne le sens des différents mots de la Bible, qui donne le sens de chaque mot de la Bible. Et dans Strong's, le premier mot qui est donné, quand il est question de changement, attendez-moi, je lis le verset 12, le sacerdoce étant changé, ce mot dans le Strong's, le premier mot qui est donné, le sens original, c'est transféré. C'est pas aboli, hein, c'est transféré. Transféré, car le sacerdoce étant transféré, parce que maintenant c'est le sacerdoce semblable au Fils de Dieu, c'est le Christ. Et donc, verset 12, le sacerdoce étant changé, étant donc transféré, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. C'est un mot, d'après le Strong's, d'après le sens de mot donné par Strong's, c'est un mot qui est très très proche de mot changé. Ici, il parle de changement, et le mot changement peut être, enfin, c'est le premier mot, je crois, même, qui est donné dans le Strong's, c'est transposition. Transposition. il y a un transfert de sacerdoce et il y a donc aussi une transposition de loi. Une transposition de loi. La loi n'est pas abolie. Et la dîme, pour finir, quand on regarde bien dans ce contexte, ça revient comme au départ. Il y avait Melchizedek, il y avait les Lévites, et maintenant, il y a un transfert de sacerdoce, et nous avons donc Melchizedek qui demeure sacrificateur à perpétuité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va d'abord lire le verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, parce que le Christ est né en tant qu'être humain, c'est pour ça que la Bible parle ici de la ressemblance de Melchizedek. À l'époque, il n'était pas encore venu en tant qu'être humain, c'était pas le Christ. Et quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est l'ordre de Melchizedek qui revient. L'ordre de Melchizedek qui revient, le Christ est devenu notre souverain sacrificateur. Et le Christ qui règne d'éternité en éternité. Ceci dit, regardons ce que notre souverain sacrificateur a dit. Le Christ a dit, quand il était dans la chair, Matthieu chapitre 23, verset 23. Il faut donc établir un processus logique. Matthieu chapitre 23, le Christ qui est devenu notre souverain sacrificateur, Matthieu chapitre 23 et le verset 23. Donc la dîme était restaurée comme au commencement. Il n'a pas été dit que c'était aboli. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et de cumin. Très scrupuleux, il payait la dîme sur ces petites, toutes petites choses, de la menthe, de l'aneth et de cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, ces choses plus importantes dans la loi, qui ont plus de poids dans la loi, c'est ce qu'il fallait pratiquer, et le Christ ajoute, sans négliger les autres choses, sans négliger le fait d'être scrupuleux avec même les petites choses en ce qui concerne la dîme. Allons un peu plus loin. Voilà ce que le Christ a dit donc à propos de la dîme. Nous savons, le Christ, donc notre souverain sacrificateur, d'après l'ordre de Melchizedek, que le Christ est le chef de l'Église, que l'Église est son Église. Et le Christ a donné des consignes à son Église, que nous trouvons, entre autres, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19. De la même façon que le Dieu de l'Ancien Testament a donné aux Lévites la dîme qui lui appartenait, ici dans Matthieu chapitre 28, verset 19, le Christ aussi donne à son Église, ou plus précisément au ministère de Jésus-Christ, pour que la mission de son Église puisse être effectuée. Matthieu chapitre 28 et le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, consignes qui sont données au ministère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ est le chef de l'Église. Il donne des consignes à son Église. Il donne une mission à son Église. Et par exemple, 1 Timothée chapitre 4, le verset 6, nous voyons que le ministère, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, était appelé le ministère de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 6. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. C'est un ministre de Jésus-Christ. Il dépend de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui donne des consignes, c'est le cas de le dire. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles, de la foi et de la bonne doctrine. Et les ministres ont la responsabilité de prêcher l'Évangile et de nourrir le troupeau. On voit les deux choses ici englobées dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Ils ont une responsabilité donnée par Dieu, tout comme les Lévites avaient une responsabilité aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. Et on voit ces deux aspects. On a toujours parlé dans l'Église de prêcher l'Évangile et de nourrir le troupeau. Il y a des ministres qui alimentent davantage le troupeau que de prêcher l'Évangile, mais les deux aspects sont là. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ. Il faut que l'Évangile soit prêché. Ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour que, pas uniquement l'Évangile, pour que vous affermir et vous exhorter, donc la bonne nouvelle, bien sûr, l'Évangile, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, alimenter, servir le troupeau. Alimenter, j'allais dire alimenter le troupeau, oui, enfin, donner au troupeau, donner au monde de l'Église. Nourrir le troupeau, voilà. Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et la dîme le permet au ministre de faire ces deux choses, de prêcher l'Évangile, de nourrir le troupeau. Oui, enfin, vous pouvez lire comme moi les lettres de M. Franck, il est souvent question de dépenser plus d'argent pour prêcher l'Évangile. Et au fur et à mesure que le revenu augmente, M. Franks et l'équipe qui est là à Dallas cherchent à utiliser davantage l'argent pour prêcher l'Évangile. Il faut les moyens et Dieu donne les moyens. Dieu donne les moyens. Il est important, je termine avec ça, il est important toujours de se rappeler que quand nous payons la dîme, nous le payons à Dieu. Il ne faut jamais sortir de ça de son contexte. On donne à Dieu. On donne à Dieu parce que Dieu l'a dit, et on donne à Dieu parce que, comme j'ai dit au début, Dieu est suprême et devrait être suprême dans notre vie. Donc, de se rappeler que nous payons la dîme, nous le payons à Dieu. De reconnaître que tout vient de Dieu. De reconnaître que tout vient de Dieu, que l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons et la force que Dieu nous donne pour travailler, pour gagner notre vie, vient de notre Créateur, vient de Dieu.